Quel type de bateau avez-vous utilisé au cours de votre carrière de navigatrice?
Alors plusieurs, j'ai eu plusieurs bateaux. Tu sais, c'est toujours pareil, on commence petit pour apprendre et puis après on grandit. Donc la première, moi je m'étais, quand j'avais 20 ans, je m'étais construit moi-même un bateau, je n'avais pas beaucoup de sous. Donc je voulais faire du bateau quand même, donc je me suis construit un bateau qui faisait 10 mètres, mais ce n'était pas un bateau de course, c'était un bateau de croisière. Donc j'ai fait pas mal de navigation, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai fait des choses. Et après, quand j'ai commencé la course, voilà, je me suis dit, je vais commencer par un petit bateau. D'abord, ça coûte moins cher, donc c'est plus facile de trouver des sponsors. Et puis, au début, il faut apprendre un peu. Donc, j'ai fait une course que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Mini Transat ou la Transat 650. Donc, c'est des petits bateaux qui font 6,50 m. Donc, 6,50 m, tu vois, ça fait en gros à peu près comme d'ici au mur, à peu près, quoi, hein, un peu moins même. Donc, c'est un petit bateau. Et puis voilà, j'ai fait cette course qui était une course à travers l'Atlantique. On allait jusqu'aux Antilles, ça s'est bien passé. Puis après, du coup, comme ça s'est bien passé, j'ai pu avoir un bateau un peu plus grand, donc un bateau qui faisait à peu près 10 mètres. Donc j'ai fait d'autres courses avec ce bateau de 10 mètres. Et puis après, comme j'avais dans un coin de la tête depuis très longtemps l'envie de faire le tour du monde, de faire une course autour du monde, là je suis passée carrément à un grand bateau de 18 mètres. Tu vois, donc ça fait trois fois la taille du premier, c'est un grand bateau, pour faire le tour du monde en solitaire. Et c'est normal d'avoir un grand bateau quand tu vas très loin, tu vas dans des mers où il y a des grosses vagues, où il y a du vent fort et tout, donc vaut mieux avoir un grand bateau, tu es quand même plus en sécurité.
Avec quel bateau naviguiez-vous quand vous avez fait le tour du monde?
Alors donc avec ce bateau de 18 mètres de long, donc un monocoque, hein, un bateau qui a une seule coque. Alors j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu trois successivement parce que j'ai fait plusieurs fois, vous avez vu ça, hein, j'ai participé à quatre tours du monde en solitaire. Mais c'était toujours un petit peu le même genre, des bateaux donc avec une seule coque de 18 mètres de long. Simplement c'est des bateaux de course. Donc ils ont des très grands mâts, ils ont des très grandes voiles pour aller vite, et puis ils sont très très légers. Donc ils sont fabriqués dans un matériau qu'on appelle le carbone, qui est un matériau qui est à la fois très rigide, très solide et très léger. Donc évidemment c'est des bateaux qui coûtent quand même assez cher parce que c'est, on va dire, sophistiqué, hein. Il y a beaucoup d'électronique aussi, il y a beaucoup de choses pour nous permettre d'aller le plus vite possible.
À quel âge avez-vous commencé la compétition?
Alors j'ai commencé assez tard en fait. J'ai commencé à faire du bateau à peu près à votre âge, avec mes parents, parce qu'on allait en vacances au bord de la mer tout simplement, on avait un petit voilier. Par contre, j'avais pas trop l'idée que j'allais faire de la course en fait. Moi j'aimais le bateau, j'aimais la navigation, je me disais je vais partir naviguer, je vais faire le tour du monde, j'irai au Cap Horn et tout ça, mais j'avais pas l'idée de faire de la course. Et puis, j'ai fait des études d'ingénieur. Moi, je suis ingénieur des pêches, c'est-à-dire j'étais spécialisée dans, on va dire, le poisson, en gros. Et j'ai travaillé comme ingénieur, d'ailleurs en partie à La Rochelle. Et puis, je vous ai raconté, je me suis construit mon bateau pour moi, qui n'était pas un bateau de course. Et puis, voilà, j'avais à peu près 28-29 ans. J'avais des copains à La Rochelle qui faisaient de la course. Et entre autres, j'avais des copains qui faisaient cette fameuse mini transat. Et puis, je les regardais, qui se préparaient et tout. Je trouvais que ça avait l'air assez sympa, leur truc. Ça avait l'air assez rigolo. Et donc, quand je suis revenue de voyage avec le bateau que j'avais construit, je me suis dit, tiens, bah, peut-être que je pourrais essayer pour voir. Donc, j'ai commencé la course, tu vois, j'avais à peu près 30 ans. J'avais 29-30 ans, ce qui est relativement tard. Aujourd'hui, tu vois des coureurs qui commencent beaucoup plus jeunes que ça. Mais voilà, moi j'avais déjà un métier avant et j'ai fait de la course un peu plus tard. Par contre, quand j'ai commencé à partir de 30 ans, je suis assez vite devenue professionnelle. Et le premier tour du monde en solitaire que je fais à 34 ans, à partir de là, je deviens vraiment professionnelle de la voile et du bateau à voile et de la course.
Combien de titres ou de podiums avez-vous remporté?
Alors, j'en sais rien. J'ai pas compté. J'ai pas compté parce que voilà, parce qu'au fond, si tu veux, pour moi en tout cas,
C'est sympa de gagner, hein, bien sûr, parce que quand tu fais une course, c'est pour gagner, c'est pas pour être derrière. Mais bon, le plus intéressant, c'est de faire la course quand même. Tu vois, c'est de préparer le bateau pour avoir le super bateau qui va bien. Après, c'est d'être à fond quand tu navigues et tout. Bon, et puis à l'arrivée, bah, des fois, tu es première, des fois, tu es deuxième, des fois, tu es douzième, hein, parce que ça marche pas bien. Et voilà. Ou des fois, tu casses le bateau, tu n'arrives même pas. Bon. Mais au fond, moi, j'ai jamais trop fait attention à ça. Ça m'a quand même aidé. Tu vois, je parlais de la Mini Transat qui était ma première course. Là, ça m'a aidé parce que j'ai gagné la première étape aux Canaries et j'ai fini troisième, donc j'ai fini sur le podium. Et grâce à ça, je suis devenue, comme on peut dire, un espèce à l'époque, un jeune espoir, hein, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui montre, qui prouve qu'il est capable de faire un résultat. Donc ça m'a aidé à trouver des sponsors, à trouver de l'argent. Si j'avais été 42e, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal. Après, pour dire, ben, vous voyez, je suis capable, etc. Donc voilà. Il y a une. Ouais, il y a deux, trois moments où j'ai gagné des choses qui m'ont vraiment fait plaisir. Entre autres, par exemple, une course, enfin, qui est en fait un record, c'est-à-dire une course contre la montre qui va de New York à San Francisco en passant par le Cap Horn, c'est-à-dire on fait tout le tour de l'Amérique. Où là on a gagné très très largement, donc c'était sympa, voilà. Et tout le monde disait en plus qu'on n'avait pas gagné, donc c'est marrant quand tu vois quand on dit ben voilà bisque bisque, hein, je gagne quand même. Voilà des étapes. Alors j'ai jamais gagné complètement une course autour du monde solitaire, mais j'ai gagné des étapes, donc ça aussi ça fait plaisir, tu vois. Mais bon voilà, j'ai pas compté honnêtement. Alors là-bas.
Quelle a été votre première compétition et quelle a été votre dernière compétition?
C'était donc la Mini Transat de 1987. Non, ça, hein, ça ne rajeunit pas. Donc on partait de Concarneau et on allait aux Antilles. Enfin, on faisait Concarneau, on s'arrêtait aux Canaries. Et puis vous avez dû regarder un peu la géographie, hein, je pense, avec les maîtres et les maîtresses. Et puis après, on traversait l'Atlantique pour aller donc aux Antilles, en Martinique. Donc ça a été la première course. Et la dernière que j'ai faite, ça a été en 2000, le Tour du monde en solitaire, en escale, en quatre étapes. Où voilà, à cette époque-là, ça faisait déjà 15 ans que je faisais de la course au large. Et je m'étais dit, avant de partir, je m'étais dit, bon, je fais encore ce tour du monde-là, puis après j'arrête, je ferai autre chose. Parce que j'avais, voilà, j'avais envie que ça change aussi un peu. C'était bien de faire des tours du monde et tout ça, mais j'avais un peu envie de changer. Donc le dernier tour du monde que j'ai fait, si après j'ai recouru un peu avec des copains, j'ai refait une transat, j'ai fait deux transats encore après avec des copains. Mais c'était comme ça, plus parce qu'il m'avait invité à courir que mon propre projet, quoi.
À combien de courses avez-vous participé?
C'est pareil, j'ai pas trop compris, tu vois. Donc j'ai fait, c'est sûr, j'ai participé à quatre tours du monde en solo. En partie, j'ai fait des étapes d'un tour du monde en équipage, où on n'était que des filles à bord en plus, c'était rigolo. On était 12 nanas. Et puis j'ai fait donc deux fois New York-San Francisco. J'ai fait 3-4 transats. Puis des courses un peu sympas, un peu marrantes, qui n'existent plus maintenant, où on faisait tout le tour de l'Europe en faisant des tas d'escales. Donc ça, c'était assez sympa. Donc, je ne sais pas, des grandes épreuves, je dirais une vingtaine, quoi, à peu près. Mais je n'ai pas vraiment compté non plus, à vrai dire.
Quel a été votre plus long parcours en bateau à voile?
Alors, bah, c'est le Vendée Globe, hein, puisque le Vendée Globe, vous en avez entendu parler, je pense. C'est donc une course, on part des Sables-d'Olonne, donc c'est pas très loin d'ici, et on revient aux Sables-d'Olonne. Et on touche pas terre entre les deux. Donc ça met à peu près 3 mois. Voilà. Donc c'est le plus long. Enfin, en tout cas, pour moi, oui.
La traversée des océans est-elle difficile pour vous orienter? Vous orienter.
Ah, pour s'orienter. Ah oui, ça c'est une jolie question. Déjà, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire ici, c'est regarder où est le soleil. Il se lève où le soleil le matin ?
Ouais.
À l'est, voilà, et il se couche à l'ouest. Donc déjà, le matin, tu peux regarder où est le soleil et tu te dis, c'est à peu près l'est qui est par là. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les gens il y a très 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 longtemps, quand ils n'avaient rien pour se positionner. Donc tu vois, tu peux avoir des petits repères comme ça. Le soleil, c'est évidemment un bon repère. Mais ce n'est pas très très précis, juste à regarder comme ça. Alors aujourd'hui, pendant longtemps, on a utilisé des appareils qui sont très, que je trouve très jolis, d'ailleurs, qui s'appellent des sextants, qui sont des espèces d'appareils comme ça, avec ça forme comme un angle, et tu mesures la hauteur entre le soleil et l'horizon. Et en même temps, il faut prendre l'heure très très précisément, et puis après tu fais plein de calculs, et ça te donne ta position. Vous savez que la position sur la Terre, c'est la latitude et la longitude. Parce que quand on croise une latitude et une longitude, c'est un endroit unique dans le monde. Ici, on doit être à peu près par 41 degrés quelque chose nord, et je ne sais pas trop combien, on doit être à pas grand-chose, pas loin de zéro. Hein. Donc voilà. Donc ça permet. Alors après, depuis une quinzaine d'années, on a des GPS. Les GPS qui ont d'abord été plutôt inventés d'ailleurs pour les astronomes et les marins. Maintenant, il y en a dans toutes les voitures. Donc le GPS, lui, il parle avec les satellites, entre guillemets, enfin quand je dis il parle. Il y a des informations qui s'échangent, codées, et le GPS, il te donne ta position directement sur un écran. Donc, tu as directement latitude, longitude. Tu peux les reporter sur une carte, ou même maintenant, on fait encore plus facile, on a ce qu'on appelle la cartographie électronique. Donc, on a des petits ordinateurs avec les cartes qui sont dessinées, et puis on branche le GPS dessus, et ça met un petit point là où on est, et puis même, on peut suivre le parcours qu'on fait, etc. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est devenu très automatisé et très facile. Mais bon, pendant très longtemps, c'était compliqué de savoir où on était sur l'eau, effectivement.
Avez-vous rencontré une tempête pendant une course ?
Ah ben, plusieurs fois, oui. Ben oui, parce que, tu vois, quand on part ou traverser l'Atlantique ou encore plus faire le tour du monde, au début, à la rigueur, s'il y a vraiment une grosse tempête, on peut décaler le départ. Ça a déjà arrivé dans des courses. Mais après, une fois qu'on est parti, bah, on prend ce qui vient parce que ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Donc, s'il y a de la tempête, il y a de la tempête. Alors, le truc, c'est qu'il faut se préparer avant. C'est-à-dire il faut que le bateau il soit bien prêt pour qu'on ait tout ce qu'il faut à bord s'il y a du mauvais temps, tu vois, pour bien essayer d'être en sécurité au maximum. Et puis après, quand même, ce qui est important pour nous quand on est en mer, c'est qu'on peut suivre la météo qui fait, ou qui va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des prévisions de météo. Hein, quand vous écoutez, vous, à la télé ou à la radio, hein, vous voyez, on vous dit, bah, demain, il va pleuvoir, ou il va y avoir du vent fort, ou etc. Donc nous, on a des systèmes un peu plus sophistiqués, un peu plus compliqués, qui nous permettent de prévoir à peu près le vent qu'il va y avoir, non seulement demain, mais après-demain, après-après-demain, dans 3 jours, dans 4 jours, et même dans 5 jours, bon, c'est moins précis, mais voilà. Et donc, en fonction de ces cartes de prévision, bah, on essaye évidemment d'éviter d'être au milieu de la tempête. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement, parce que des fois, la tempête, elle est énorme. Quand elle fait la moitié d'un océan, de toute façon, elle va me tomber dessus. Donc bah, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais baisser les voiles, hein, parce que je n'ai pas besoin, quand le vent est très fort, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de voiles, au contraire, ce serait dangereux. Je vais bien tout attacher à bord. Je vais m'attacher aussi quand je suis sur le pont. Tu vois, je vais prendre un certain nombre de précautions. Et puis bah, après, il faut que la tempête se passe, quoi. Hein. Donc, mais ça, tu peux rien, c'est comme ça, c'est la météo.
Que mangez-vous pendant la traversée ?
Alors, quand on est en course et qu'on veut que le bateau soit très léger, bah, on essaye de ne pas emmener de la nourriture trop lourde. Hein. C'est-à-dire, par exemple, pas trop de conserves, parce que la conserve, c'est un peu lourd, hein, la boîte de conserve. Donc, on va emmener plutôt de la nourriture déshydratée. Hein. Ce n'est pas très, très bon, mais enfin, bon, ça nourrit. Donc, tu sais, c'est une espèce de comme une poudre. Et puis alors, En fait, c'est de la nourriture qu'on a enlevé l'eau par un processus de chauffage, si tu veux. Et donc, il reste comme la poudre. Et puis, toi, tu remets de l'eau chaude dessus. Et l'eau, moi, je la fabrique. Sur mon bateau, j'ai ce qu'on appelle un désalinisateur. C'est-à-dire, j'ai un appareil qui prend de l'eau de mer qui est salée, qui enlève le sel et qui me donne de l'eau douce. Ce qui fait que tous les jours, quand je fais tourner mon désalinisateur, je fabrique l'eau dont j'ai besoin. Donc ça veut dire que je n'ai pas à emmener des gros bidons qui seraient très lourds, mais je fabrique tous les jours les 3-4 litres d'eau dont j'ai besoin pour boire. Et avec cette eau, évidemment, donc je fais chauffer mon eau, je la mets sur ma poudre, et c'est censé faire du bœuf aux carottes ou du riz à je ne sais pas quoi. Bon, ça nourrit. C'est pas super bon. Puis après, on emmène des biscuits, on emmène des fruits secs, ça c'est très bien pour avoir de l'énergie. On emmène plein de petites choses, des barres de céréales, des trucs comme ça, quoi.
Comment faisiez-vous pour ne pas vous endormir la nuit en naviguant ?
D'abord, il y a des fois je dors la nuit, mais pas tout le temps. En fait, quand on est tout seul sur un bateau, on peut pas dormir longtemps. Parce que imagine qu'il y a un cargo qui arrive, ben, si je dors tranquillement sur mes deux oreilles, peut-être que le cargo il va me rentrer dedans, parce que peut-être que le gars qui est censé être à la passerelle, il est peut-être descendu se faire un café ou je sais pas quoi. Ou alors quand je suis dans des endroits où il y a des icebergs, si je fais pas attention, peut-être le bateau il va peut-être rentrer dans un iceberg. Donc en fait, quand on est tout seul sur un bateau, on dort par toute petite période. C'est-à-dire qu'on dort entre 20 minutes et une demi-heure. Et puis on se réveille. On regarde si tout va bien, on regarde si le vent n'a pas changé de direction, s'il n'est pas devenu plus fort, et puis à ce moment-là, il faut manœuvrer les voiles. Voilà. Et puis si tout va bien, on peut redormir encore 20 minutes, une demi-heure. Et puis on fait comme ça, et on dort pas forcément la nuit et pas forcément le jour. On dort quand on peut, on dort quand tout va bien. Tu vois, si le vent est bien stable pendant un moment, il n'y a pas de gros nuages à l'horizon, il n'y a pas de cargo, il n'y a rien, tout va bien, hop, je vais dormir, je mets mon minuteur sur une demi-heure, au bout d'une demi-heure, je me relève, je vais voir dehors, tout va toujours bien, hop, je retourne dormir. Ou alors, il y a un cargo là-bas à l'horizon, je vais le surveiller, je vais voir s'il ne va pas s'approcher de moi. Tu vois, donc en fait, on dort pas vraiment la nuit, on dort quand on peut, et en moyenne, sur 24 heures, on dort à peu près pour une durée de 4 heures et demie, ce qui n'est pas très long, mais qui est juste suffisant pour se reposer. Voilà.
Avez-vous eu des problèmes sur votre bateau pendant le tour du monde ?
Oui, j'en ai eu plein, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, les problèmes. Et puis surtout quand tu pars avec un grand bateau qui va très vite dans des endroits où il y a du mauvais temps, forcément il y a des trucs qui cassent sur le bateau, des fois ça t'arrive de faire des bêtises, donc t'es un petit peu quand même tout le temps en train de réparer ci, réparer ça, surveiller un truc, changer quelque chose qui est en train de s'user, donc voilà. Puis après des fois t'as des gros ennuis parce que ça arrive. Donc par exemple, une fois j'ai cassé mon mât. Et tout d'un coup, poum, le mât, il est tombé dans l'eau. Donc là, c'est un gros ennui, évidemment. Alors, tu y as pensé avant de partir. Donc, tu t'étais dit, j'essaierai de faire comme ci, comme ça. Donc, tu fais ce qu'on appelle un mât de fortune. C'est-à-dire, tu prends soit un morceau qui reste du mât, soit la baume qui tient la grand voile, et puis tu essayes de fabriquer un système pour le remettre debout, que ça fasse un tout petit bout de mât, et puis tu essayes de prendre une voile que tu mets comme tu peux pour que ça fasse ce qu'on appelle un gréement de fortune, tu vois. Donc ça va pas vite, mais ça te permet d'arriver quelque part. Et puis il y a des fois, il y a des problèmes encore plus compliqués qui font que tu peux plus gérer toi toute seule les choses. Par exemple, ça m'est arrivé dans le dernier tour du monde qu'il y a eu une grosse vague qui a retourné le bateau il est resté à l'envers. Donc moi j'étais dedans, mais le bateau il était à l'envers, donc je ne pouvais plus naviguer bien sûr, quoi. Donc là j'ai été obligée d'appeler au secours, entre guillemets, et pour ça on a à bord de ces bateaux, on a des petits appareils qui s'appellent des balises de détresse. Donc quand tu l'allumes, la balise, ça fait un signal qui est envoyé. Il y a trois endroits dans le monde, il y a un endroit à Toulouse, un endroit en Russie, un endroit en Amérique, qui reçoivent ce signal. Et ce signal, il donne le nom du bateau, il donne la position, et quand ce signal est allumé, ça veut dire danger de mort. D'accord ? Donc, ça veut dire que s'il y a des bateaux dans le coin, ou s'il y a, voilà, tout le monde va se mettre dans la partie pour essayer de venir te sauver la vie. Enfin, tous les gens qui peuvent, évidemment. Et donc, moi, en fait, en l'occurrence, c'est un autre concurrent de la course qui était derrière moi, qui s'est rapproché, et puis on s'est débrouillé, on a manœuvré, j'ai pu monter dans mon radeau de survie, et il m'a récupéré, et après, je suis reparti avec lui, et j'ai dû abandonner mon bateau. Donc là, c'était un gros, gros ennui, tu vois, quand même, hein, parce que, bon. Mais après, des petits soucis, ouais, il y en a tout le temps, ça fait partie du jeu.
Comment faisiez-vous votre toilette pendant une traversée ?
Oh, ça s'appelle la toilette du chat, ça. Fait ? Comment il fait le chat ? Parce que j'ai pas de salle de bain, j'ai pas de WC, j'ai un tout petit évier qui est grand comme ça, j'ai pas beaucoup d'eau par jour, j'ai 3 ou 4 litres d'eau par jour. T'imagines, toi tu dois en consommer à peu près 150, je pense, par jour, entre les chasses d'eau, la douche, la nourriture, etc. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets un petit peu d'eau dans une petite bassine ou dans le fond de mon petit évier, et puis je prends un gant de toilette et puis je me lave comme ça, quoi. Donc, je te dirais pas que je me lave tout à fait tous les jours d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, quand tu es toute seule, puis quand tu es en bateau, tu te salis pas forcément beaucoup. Il n'y a pas la poussière comme dans les villes. Donc, c'est minimum, mais voilà, ça suffit pour. Parce que, bon. On n'est pas aussi strict quand on est comme ça en train de faire une course que quand on est dans la vie de tous les jours où là tu prends ta douche le matin ou le soir, je ne sais pas, mais parce que tu as aussi la poussière des villes, parce que voilà, c'est différent.
Avez-vous rencontré des animaux marins au cours de vos navigations ?
Alors oui, on en rencontre quand même. Qu'est-ce qu'on rencontre ? Dans l'eau, quand tu es dans les mers chaudes, tu vois des poissons volants. Alors, les poissons volants, c'est rigolo parce que leurs nageoires sont très grandes comme des ailes. Et en fait, ils ne sont pas grands, c'est grand comme ça un poisson volant. C'est un peu comme une sardine, un peu, mais avec des grandes, grandes nageoires. Et quand ils se font poursuivre par des gros poissons qui veulent les manger, ils s'envolent hors de l'eau en utilisant, ils écartent comme ça, comme des ailes. Et ils volent, si tu veux. C'est pour ça qu'on les appelle les poissons volants. Pendant 30 ou 40 mètres pour essayer d'échapper au gros poisson qui est derrière et qui veut le manger. Et des fois, quand ils volent comme ça, et ils ne voient pas passer le bateau, et boum, ils atterrissent sur le pont. Alors, quand tu es là, tu peux les remettre à l'eau, et quand tu dors, tant pis pour eux, ils finiront dans la casserole. Hein, parce que... Mais voilà, on voit des poissons volants, on voit des dauphins régulièrement, un peu partout. Ça, c'est super, parce que les dauphins, eux, en fait, ils viennent vraiment jouer avec le bateau. Et alors, ils font des cabrioles, ils sautent, ils se baladent, ils sont à l'avant comme ça. Enfin bon, c'est super sympa. Des fois, tu vois, c'est plus rare, des marsouins qui sont comme des gros dauphins, mais qui sont plus peureux, eux, qui viennent pas trop. Et puis, parfois, tu vois des baleines. Donc, les baleines, tu les vois quand il fait très calme, parce qu'elles sont plus près de la surface. Et puis, tu vois leur souffle, en fait, de loin. Tu vois le jet de vapeur là, qui sort de l'évent de la baleine. Et moi, ça m'est arrivé qu'elle vienne voir le bateau. C'est plutôt trouillard quand même, une baleine. Hein. Souvent, elle reste à distance. Quoi. Ça m'est arrivé une fois ou deux, quand vraiment le bateau ne bougeait pas du tout, il n'y avait pas de vent, que les baleines viennent un peu tourner autour, viennent un peu voir qui t'es. Quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ça m'est arrivé une ou deux fois de voir des requins. Mais ça... les requins, vous savez que c'est une espèce qu'il faut protéger absolument, le requin. Hein. C'est une espèce qui est gravement en danger, malheureusement, parce qu'elle est importante pour les mers. Et puis après, on voit des oiseaux, plutôt là aussi dans les mers froides, où il y a plus de nourriture dans les mers froides, donc il y a plus d'animaux. Et alors là, on voit pas mal d'oiseaux dans les mers froides, des pétrels, des puffins, des albatros, les grands, grands oiseaux qui planent comme ça. Donc ça, c'est assez beau parce que pratiquement tout le temps, il y a des oiseaux autour de toi quand tu navigues dans ces mers-là. Quoi. C'est sympa.
Lors de vos voyages, quels ont été les plus beaux paysages que vous avez aperçus ?
Les plus beaux
paysages.
Paysages. Ah, c'est une bonne question, ça. Que te dire? Je pense qu'il y a des moments, c'est parce que souvent on me dit, oh, mais ça doit, tu dois t'ennuyer quand tu es en mer parce que c'est que de l'eau et il n'y a rien d'autre que de l'eau et du ciel et tout. Et moi je dis aux gens, mais non, parce qu'il y a des vrais paysages en mer. Il y a des moments, les nuages sont magnifiques, il y a des moments, la lumière est très très belle et puis les vagues sont très belles. Et je pense en particulier, tu vois, moi j'aime bien justement ces mers très au sud parce que souvent il y a une lumière qui est très pure. Et puis même s'il y a des nuages, et puis tu as des grosses vagues énormes, tu vois, donc ça fait une espèce de, comme ça, quelque chose de très puissant, de très gros, quoi. Et quand tu surfes là-dessus à toute vitesse avec le bateau, c'est très excitant, quoi. C'est sympa. Donc voilà, je trouve que c'est des beaux paysages. Après, il y a aussi évidemment, ça je l'ai plus vécu en croisière plutôt qu'en course, mais quand tu t'approches de certaines terres qui sont magnifiques. Moi, je suis allée plusieurs fois en Antarctique, par exemple. Tu arrives au milieu de la glace, des icebergs, tu as des grandes montagnes, tu as des lumières aussi, c'est tout d'un coup un peu rose ou un peu bleu. C'est très beau, quoi. C'est vraiment... Il y a plein d'endroits sur la Terre, heureusement, qui sont encore super beaux, quoi. Donc, en plus, quand tu y vas en bateau, tu as le temps, tu les vois, tu vois, c'est tranquille et tout, c'est plus sympa, moi, je trouve, que d'y arriver en avion, par exemple. Parce qu'en avion, boum, t'es là. Alors que là, quand t'approches d'une côte, petit à petit, tu vois, puis après, tu distingues les arbres, et puis après, les maisons, et puis après, les... Donc, c'est sympa.
Qui vous a donné l'envie d'être navigatrice? Pourquoi?
Moi, j'avais un papa qui adorait ça. Et quand j'étais petite fille, donc on avait, je le disais tout à l'heure, quand j'avais 6-7 ans, on allait en vacances en Bretagne, et puis on avait un petit bateau en bois, et voilà, et papa, il emmenait les filles, moi j'ai 4 sœurs, tu vois, on était 5 filles dans la famille. Donc à tour de rôle, on allait, mais c'était, on n'allait pas loin, tu vois, on allait dans la petite île qui était en face, c'était pas très loin, mais c'était déjà l'aventure. Et voilà, et je pense que sûrement mon papa m'a donné le goût de la mer, il m'a appris à naviguer, après il a eu un bateau un petit peu plus grand, on a commencé à partir un peu plus loin, et voilà, et donc moi j'ai vraiment, je crois que j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Et après, pourquoi j'ai aimé ça, je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas, parce que peut-être que vous, les uns et les autres, vous avez un rêve dans la tête et vous vous dites, quand je serai grand ou quand je serai grande, je voudrais faire ça. Si on vous dit pourquoi, bah vous allez dire, parce que voilà, parce que j'ai envie de ça, quoi, parce que je veux être pompier ou écrivain ou président de la République ou je ne sais pas quoi. Moi, je voulais être marin. Donc, pourquoi, je ne sais pas. J'aimais la mer et pourtant, j'habitais à Paris, hein, enfin dans la banlieue parisienne. Mais quand j'avais votre âge, je me disais, je ferais un métier au bord de la mer et je travaillerais, je ferais quelque chose avec la mer. Et je ne savais pas encore que j'allais faire ça, mais je savais que c'était ça qui m'intéressait.
Comment avez-vous supporté la solitude à bord de votre bateau?
T'as raison, parce que des fois, il y a plein de gens qui ont peur d'être tout seul. Ils trouvent ça terrible, ils ont très peur, ils disent, mon Dieu, j'ai plus personne à qui parler, et plus personne. Alors moi, je vais te dire qu'il y a deux solitudes. Il y a celle que tu n'as pas choisie, parce que tu es un prisonnier, parce que tu es quelqu'un d'âgé que personne ne vient voir, ou quelqu'un de malade que personne ne vient voir. Donc là, tu es tout seul, tu ne l'as pas voulu. Et là, tu es très malheureux, parce que tu aimerais bien voir du monde, tu aimerais bien parler, tu aimerais bien... Voilà. Et puis, il y a la solitude que tu choisis toi. Et tu te dis, de telle date, à tel moment, j'ai envie d'être tranquille. J'ai envie qu'on me lâche la grappe, tu vois. J'ai envie de faire mes trucs, toute seule, bien. Et là, c'est sympa, parce que c'est toi qui l'as choisi. Et puis que tu sais que ça ne va pas durer toute la vie, qu'à un moment donné, tu vas revenir aussi et retrouver les gens que t'aimes, ta famille, tes amis, et reparler à tout le monde. Donc là, c'est sympa. Et du coup, ça, c'est très agréable. Et je vous incite, même si vous êtes un peu jeune, de temps en temps, d'essayer de faire ça, ou peut-être que vous le faites, hein, vous êtes dans votre chambre, peinard, tranquille, vous faites vos trucs, vous n'avez pas envie qu'on vous dérange, vous n'avez pas forcément à ce moment-là envie de parler aux gens. Vous êtes en train de dessiner, vous êtes en train de faire je sais pas quoi, de rêver, de ben voilà, c'est des petits moments de solitude qui sont agréables. Donc du coup, moi, si tu veux, quand j'ai décidé de faire des courses toute seule, ben, j'étais dans cette idée-là, dans l'idée que pendant que je faisais la course, j'étais toute seule, mais avant et après, j'étais évidemment, comme tout le monde, avec ma famille, mes amis et tout le monde, mes collègues de travail et tout ce qu'on veut, quoi. Et puis j'avais ce moment, une espèce de respiration, de moment où j'étais avec mon bateau, qui est un bon compagnon aussi, et là c'est agréable.
C'est long de faire un tour du monde. Est-ce que vous vous êtes senti seul? Vous êtes-vous ennuyé? Vos parents vous ont-ils manqué?
Alors, il y a plein de choses dans ta question. C'est vrai que c'est un peu long de faire un tour du monde. Est-ce qu'on s'ennuie? On n'a pas beaucoup le temps de s'ennuyer, surtout quand on fait la course. Parce que, tu vois, on est tout le temps en train de manœuvrer les voiles pour que ce soit le mieux possible. Je disais tout à l'heure, des fois, il y a des trucs à réparer. Il faut s'occuper de la météo, donc il faut être sur son ordinateur pour essayer de comprendre par où il faut passer, etc. Donc, on a plein de choses à faire. Donc, en général, en course, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Même au contraire, des fois, on n'a même pas le temps de dormir, tu vois. Donc on est quand même très occupé. Après, est-ce que les gens te manquent? Oui. Oui, forcément. C'est d'ailleurs... c'est ce qui est le plus... Je trouve presque le plus difficile, parce qu'on parlait de la douche. Bah, si tu n'as pas la douche le matin, hein, tu t'en passes. Hein. Voilà. Dites pas ça à papa-maman, mais... par contre, les gens que t'aimes, ta famille, mon petit ami, mes parents, mes sœurs, mes bons copains, oui, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien les voir. Alors maintenant, on peut téléphoner sur les bateaux, on a des téléphones, on peut envoyer des emails, on peut communiquer quand même, mais c'est pas pareil, c'est pas comme, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça à ce moment-là. Pendant que tu fais la course, ils sont pas là parce que c'est une course en solitaire. Du coup, quand tu les revois, c'est génial, tu vois, parce que vraiment, tu as super envie de les revoir, eux aussi d'ailleurs, et on se tombe dans les bras et tout va bien, et on va boire des coups et c'est bien sympa. Mais oui, c'est vrai que c'est dur pour eux aussi, tu vois, parce que imagine que ton papa ou ta maman partent comme ça naviguer pendant 3 mois. Des fois, toi, tu pourrais être inquiète. Te dire, est-ce qu'il n'y a pas une grosse tempête, ou est-ce qu'elle va tomber malade, ou je ne sais pas quoi. Donc pour les gens de ta famille, ce n'est pas facile non plus, quoi.
Quelles émotions ressentiez-vous lors des courses?
Ah, plein. D'abord, tu as un peu les jetons quand même, hein, parce que, surtout quand tu pars, parce que tu vois, tu quittes le quai un beau jour, puis tu te dis, normalement, dans 3 mois, je vais revenir, mais en fait, t'en sais rien, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois tes copains qui partent aussi, tu te dis, normalement, dans 3 mois, ils vont revenir, mais t'en sais rien. Moi, ça m'est arrivé que j'ai des copains qui disparaissent en mer et qui reviennent pas. Tu vois toute ta famille qui pleure parce qu'ils ont peur pour toi, donc ça, c'est terrible. Donc, le début, c'est il y a beaucoup d'émotions. À la fois, t'es contente de partir, parce que ça fait des années que tu travailles pour ça. Tu vois, que tu as trouvé de l'argent, construit un bateau, préparé, tout ça. Ça a duré très longtemps, tu as beaucoup travaillé. Donc, enfin, tu pars parce que tu as tout fait pour ça. Mais en même temps, t'es quand même un peu... t'as quand même l'estomac un petit peu tortillé, quoi. Hein. Et puis, après, il se passe tout. Tu as toutes les émotions, mais sans doute encore plus fort qu'à terre. Parce qu'aussi, tu es toute seule. Donc... si ça va mal, tu as l'impression que ça va très mal. Si au contraire, ça va bien et que c'est magnifique, c'est génial et tu t'éclates, tu vois, comme pas possible. Donc, toutes tes émotions sont un peu grandies par rapport à ce que tu vis à terre. Mais après, tu as les mêmes qu'à terre. C'est-à-dire, il y a des moments où tu es heureuse ou malheureuse, où tu es énervée, où tu es fatiguée, où tu rigoles parce qu'il se passe un truc drôle et que ça te fait éclater de rire toute seule. Enfin, voilà, tu as tout. Et puis, évidemment, quand tu arrives à la fin... Là, c'est que du bonheur, pour le coup. Parce que, si tu veux, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Tout à l'heure, tu es première, tu es deuxième, tu es cinquième. Bon, mais tu as réussi à arriver, à faire le tour du monde, à arriver. Tu revois tous les gens que tu aimes et tout, on s'embrasse, tout va bien. Donc, l'arrivée, en général, c'est vraiment, tu es sur un petit nuage, quoi. Hein, tu vois, c'est plutôt sympathique.
Quel a été votre meilleur souvenir ? Quel a été votre plus mauvais souvenir? Pourquoi?
Alors, heureusement, les meilleurs, il y en a plein. Et les mauvais, il n'y en a pas beaucoup. Alors, dans les pleins de bons, si je devais en choisir un, je te raconterais, par exemple, le jour de mon anniversaire. J'avais 34 ans. C'était mon premier tour du monde. Et il se trouve que, ce jour-là, j'ai franchi la limite des 40e sud. Et donc, je rentrais dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, qui sont pour les marins un peu comme l'Everest, tu vois, un truc difficile, extraordinaire, avec plein d'histoires et d'aventures et tout. Donc déjà, c'était un moment incroyable, tu vois, juste le jour de mon anniversaire. Et il faisait beau, et par contre, il y avait une très grosse houle, des vagues très hautes, mais pas méchantes du tout. Tu vois, ça faisait peut-être 15 mètres de haut, mais c'était tout tranquille comme ça. Et donc le bateau, il montait, il descendait gentiment sur ces vagues. Et puis, c'est là aussi que j'ai vu pour la première fois les albatros. Et les albatros, donc, ce sont des très grands oiseaux qui font plus de 3 mètres de large. Donc, c'est très, très grands oiseaux. Et en fait, c'est des oiseaux qui utilisent le vent qui est créé par les vagues. Parce que la vague, quand elle passe, elle pousse de l'air devant elle et ça fait du vent. Et donc, l'oiseau, lui, il est malin. Plutôt que de battre des ailes et se fatiguer, il a une espèce de cliquet, là. Il clique ses ailes, qui vont rester, sans qu'il fasse d'effort, qui vont rester comme ça, tendues. Et il va aller à l'avant des vagues, prendre le courant d'air qui va le pousser vers le haut. Donc, il arrive devant la vague et tu as l'impression qu'il danse, parce qu'il se balance un peu comme ça. Et hop, il repart tout seul, sans battre des ailes. Et puis, il va redescendre un peu plus loin. Et puis, il va reprendre une autre vague et tout. Et quand tu as 3-4 albatros qui font comme ça, tu as l'impression qu'ils dansent. Et c'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment super beau. Et toi, tu te dis, mais quelle chance j'ai d'être là et de voir tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Mais c'est un souvenir parmi d'autres, parce que je te dis, j'en ai plein de bons souvenirs de bateaux. Et il y en a qu'un qui a été difficile. Je parlais d'amis qui disparaissent en mer. Et quand j'ai fait le Vendée Globe, j'ai été dans une tempête très, 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 très forte. Il y avait un autre bateau avec un concurrent qui était un copain, qui n'était pas extrêmement loin, qui était à 50 km en mer, c'est pas très loin, et qu'à un moment donné, dans la tempête, il a pu donner de nouvelles. Et donc moi, j'ai essayé de faire demi-tour, alors c'était compliqué de faire demi-tour, parce qu'il y avait beaucoup de vent et des tempêtes vraiment violentes. Et pendant 2 jours, j'ai essayé de le chercher, parce qu'on n'avait plus de nouvelles de lui, on ne savait plus où il était. Et moi, j'étais évidemment très inquiète parce que moi, le bateau, il avait chaviré 6 fois, donc je voyais bien que ça pouvait être très dangereux. Et donc, ça, c'est pas agréable parce que tu cherches un copain sur la mer, tu sais pas où il est, il fait pas beau, et tu te dis qu'il y a très, 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 très peu de chances de le trouver. C'est vraiment comme une aiguille dans une botte de foin. D'ailleurs, je l'ai pas trouvé et Jerry, il s'appelait Jerry, a disparu en mer. Donc ça, c'est dur, parce que bah, c'est un copain. Donc déjà, la mort d'un copain, c'est pas drôle. Et puis, bah, toi, t'as essayé de faire quelque chose, et en même temps, bah, ça a servi à rien, parce que voilà, t'as pas pu le trouver. Donc ça, c'est pas des bons souvenirs. Ouais.
Lors de votre dernière course autour du monde, où étiez-vous quand votre bateau a chaviré ?
Alors, j'étais dans un endroit, c'est pas là qu'il faut chavirer, parce que j'étais vraiment loin, 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 loin de tout. J'étais au milieu du Pacifique, qui est le plus grand océan du monde, quand même. Donc, j'étais au milieu, par à peu près 55 sud, donc assez bas au sud. Donc, il n'y a pas de bateau qui passe là-bas, à part, heureusement, des coureurs de la même course que moi. Donc, c'est un coureur, Giovanni Soldini, un Italien, qui m'a récupéré. Parce que sinon, il n'y a pas de cargo, il n'y a personne dans ces endroits-là. Tu vois, c'est vraiment très, très paumé. Donc voilà, heureusement. Puis j'y avais pensé avant, j'avais pensé que ça pouvait m'arriver. Donc j'avais fabriqué une sortie de secours pour l'arrière du bateau et tout. Donc j'avais 2-3 trucs qui m'ont permis de m'en sortir.
À quel âge avez-vous commencé à écrire ?
Alors, on est parti sur l'écriture. Bah, écoute, en fait, plutôt après avoir fait toute cette carrière de course. Parce que quand tu fais une carrière de course, tu travailles 7 jours sur 7, tu ne prends jamais un jour de vacances, et tu travailles plutôt entre 12 et 15 heures par jour. Parce que tu as beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. pour que le bateau soit prêt, et puis évidemment après quand tu es à bord. Donc tu n'as pas tellement le temps de faire autre chose. Donc du coup, moi j'ai commencé à écrire en fait quand à peu près au moment où j'ai arrêté de courir, c'est-à-dire vers un peu après vers 2002-2003. Moi j'étais une petite fille qui lisait beaucoup, j'adorais les livres et j'adorais les aventures. Puis je trouvais ça mieux que la télé, les livres ça me faisait plus rêver. Et donc j'aimais bien l'écriture. Et j'ai toujours bien aimé raconter des histoires, quoi. Donc voilà, donc quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la course au large, de continuer à naviguer mais autrement, je me suis dit c'est le moment de raconter un peu tout ce que j'ai peut-être pas pu raconter pendant les 15 ans de course au large que j'ai faite. Et donc d'écrire des livres qui peuvent être des romans, qui peuvent être des récits, ça peut prendre plein de formes, tu as plein de façons de raconter.
Qui vous a donné l'envie d'écrire?
Je pense que j'avais un peu déjà cette envie. J'avais travaillé pour des journaux de temps en temps qui m'avaient demandé d'écrire des petits comptes rendus de mes courses ou des choses comme ça. Quand je faisais le Globe, par exemple, je faisais une petite chronique dans Libération. J'envoyais par email un petit texte toutes les semaines. C'est pas vraiment moi qui ai décidé, tiens, je vais écrire un livre et puis je vais aller voir un éditeur pour voir s'il veut éditer le livre. C'est plutôt des éditeurs qui sont venus me voir parce qu'ils avaient vu ces petits articles que je faisais et qui m'ont dit, mais bon, est-ce que ça vous intéresse de faire plus, d'écrire des livres, etc. Donc j'en ai vu plusieurs, il y en a plusieurs qui sont venus. Au début, je sentais pas bien le truc, quoi. Je m'entendais pas forcément bien avec eux. Puis un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui est venu me voir comme ça, et je me suis vraiment bien entendue, quoi. Et on a commencé à discuter, qu'est-ce que je pourrais raconter, et donc voilà. Donc c'est en fait c'était vers 2003, un truc comme ça. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment écrit mon premier bouquin. Mais c'est en fait plus eux qui sont venus me voir que le contraire. Ça a été plus facile, parce que des fois, on écrit des histoires, c'est compliqué de se faire éditer, mais là, j'avais la chance que ça allait dans l'autre sens.
Combien de livres avez-vous écrit?
Alors, c'est une bonne question. Je dois en être à 8, je pense. Quelque chose comme ça. Il y en a un qui est sorti là au mois de novembre, et puis j'ai un roman qui est en finition, on va dire, dont mon éditeur voudrait bien qu'il sorte au mois de mai, mais ça on verra s'il est prêt. J'ai dû écrire 8 bouquins, il me semble.
Que racontez-vous dans vos livres?
Alors, plein de choses. Ça parle toujours plus ou moins de la mer. Il y a des fois, j'ai raconté des voyages que j'ai faits. Tu vois, le premier livre que j'ai fait, j'ai raconté mes histoires de marin, comment ce que je vous racontais tout à l'heure, comment j'ai fait la mini transat, et puis après le tour du monde et tout. Donc c'était plutôt un récit où tu racontes ce que tu as fait, quoi. J'ai fait un ou deux autres livres comme ça parce que je suis allée après, par exemple, dans une île extraordinaire qui s'appelle la Géorgie du Sud, où il y a plein d'animaux et donc j'ai fait un livre avec un des garçons qui était à bord avec moi aussi, qui était un alpiniste, où on a raconté ce qu'était cet endroit de la Géorgie du Sud. Et puis, j'ai écrit aussi des romans, donc des histoires que j'invente, mais qui ont toujours un rapport avec la mer. Il y a toujours ou des marins, ou des gens qui habitent au bord de la mer, ou qui ont un... j'aime bien parce que ça me permet de parler de la mer, tu vois, ça me permet de parler des endroits que j'aime bien. Par exemple, le dernier roman que j'ai écrit, ça raconte, ça se passe au 19e siècle, donc il y a longtemps, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive en Patagonie, c'est-à-dire tout en bas de l'Amérique, près du Cap Horn, et qui va vivre là-bas, et qui va rencontrer les Indiens, et qui va voir ce paysage de mer, d'îles, etc. Parce que j'ai bien aimé cet endroit-là, tu vois. Donc du coup, j'ai inventé des personnages, et puis comme ça me permet de parler. Et puis après, j'ai fait un troisième type de livre. C'est des livres qu'on appelle des essais, en général. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un petit peu comme si tu étais journaliste. Tu Tu vois, le dernier que je viens de sortir, là, qui s'appelle Passer par le Nord, c'est un livre que j'ai fait avec quelqu'un d'autre, on était deux, qui est un écrivain, qui s'appelle Eric Orsenna. Et on avait très envie d'aller voir ce qui se passe dans le très grand nord, au nord de la Russie, là-bas, dans ces mers très froides et tout. Donc on a fait des voyages là-bas, on a été regarder ce qui se passait, parler avec les gens, etc. Et puis on a écrit un livre pour raconter ce qui se passe. Donc c'est plutôt du journalisme, et ça, c'est le genre de livre-là, ça s'appelle des essais. Donc j'ai fait un peu les trois genres, moi, pour l'instant. Je n'ai pas écrit de polar encore, mais ça viendra peut-être. Alors, tout le monde va poser ses questions.